my God, here we go again.
Morin. Live.
Avec Dominique Morin.
C'est pas mon chum.
Radio X.
OK, ça brasse beaucoup ce matin sur les routes. Ça accroche, ça. Puis il y a des sorties de route. On commence par Laurentienne. Laurentienne, c'est sur le Dodelon. Vous êtes pris. Ça commence à être ralenti à la hauteur du lac Beauport. C'est pas compliqué. Il y a eu un accrochage ce matin. On a fermé 2 voies sur 3. Tout ça est rentré dans l'ordre. On a réussi à tasser tout le problème, mais vous comprendrez que ça a causé des ennuis qui sont difficiles à remonter. Capitale, c'est jamais direction ouest sur le Dodelon. Henri IV également. Henri IV, il y a 3 accrochages actuellement, 3 sorties de route. Une à la hauteur de Sainte-Geneviève, une en arrivant à la hauteur du boulevard L'Auvergne ou encore l'autoroute Jean-Marchand, puis un autre qui en arrive à la hauteur de la capitale. Donc, évidemment que dans ce secteur-là, c'est du costaud, c'est très compliqué. La route de l'aéroport devient une solution ce matin. Accrochage également sur Charest. C'est direction Est, direction Centre-Belle, à la hauteur du boulevard Amel, à la hauteur de Saint-Augustin. On a un autre accrochage cette fois-ci. C'est un peu après être passé Duplessis, là, sur le chemin, sur la ligne droite, entre Duplessis et Henri IV. Il y a un accrochage dans ce secteur-là. Charest, secteur à éviter également ce matin. Je ne vous ai pas encore parlé de la tête des ponts où c'est complètement jamé. Actuellement, c'est presque à la hauteur de Lévis-Centre-Belle où c'est pare-choc à pare-choc pour les gens qui sont en direction Ouest. Direction Est, à partir de la route Lagueux, c'est vraiment un matin qui est très, très costaud au niveau de la circulation. E-Box t'offre un cadeau de la rentrée. 100 $ en carte prépayée quand tu t'abonnes à l'Internet 500 Mbps à 55 $ par mois. Détail au e-box.ca.
Mesdames, messieurs, un Québécois à Paris, ben c'est Mathieu. Mathieu Bocoté, salut, comment ça va?
D'une humeur constante et joyeuse.
Si on faisait la circulation à Paris, je pourrais te dire, par exemple, la bretelle A86 qui nous mène à la A4 à Paris est fermée à Maison-Alfort et vous avez la circule. Là. Si tu veux faire la circule à Paris...
Oui, 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 mais on la fera pas. On la fera pas parce que je t'aiderai à me retrouver moi-même à partir de ça. Je peux te guider dans les arrondissements à Paris si je me mets avec les autoroutes, ma paire.
Ah, c'est bon. Tu travailles dans quel arrondissement en passant, par curiosité?
Alors, les studios de CNews sont dans le 15e arrondissement. Le Figaro, ses bureaux sont dans le 9e arrondissement. Et moi, mon appartement mon petit studio québécois que j'ai mis à partir duquel je travaille pour faire l'ajout et ainsi de suite, est dans le 6e arrondissement. Donc, je bascule dans mais normalement du 6e au 15e chaque jour chez moi et CNews, chez moi, CNews, ainsi de suite.
Parfait. Campagne que tu suis à distance, mais quand même intensément parce que tu la commentes abondamment. Est-ce qu'on assiste à un plafonnement de la carnification de Fréchette? Comment tu lis les choses?
Ben, il y a eu une forme de tentative de coup de force médiatique pendant 10 jours où on a cherché à transformer cette élection en référendum anti-Trump dont Fréchette serait la bénéficiaire. Manifestement, il y a une limite à la chose pour deux raisons. La première, je dirais tout simplement, tout poliment, que Mme Fréchette n'est pas M. Carney. On peut penser ce qu'on veut de Carney. Il arrive avec un profil, un parcours, c'était M. Beau CV, et ainsi de suite. Mme Fréchette, qui est une femme honorable, n'a pas le parcours de M. Carney. C'est une honnête technocrate mineure du modèle québécois qui s'est retrouvée en position de force à un moment particulier, mais sa capacité de nous éblouir tous est moins forte. Premier élément. Deuxième élément, les Québécois sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe à Québec qu'à ce qui se passe à Ottawa. Ottawa, c'est lointain, puis ça active le réflexe du bon maître anglais qui va nous protéger contre l'empereur américain. À Québec, on s'intéresse quand même un peu plus à ce qui se passe au Québec. Donc là, cette campagne, tôt ou tard, le bilan de la CAQ allait ressurgir. Tôt ou tard, les 500 millions gaspillés par la CAQ dont on a reparlé allaient ressurgir. Tôt ou tard, la catastrophe migratoire engendrée par la CAQ allait ressurgir. Tôt ou tard, la situation du français allait ressurgir. Tôt plus on peut faire une tonne de tôt ou tard. Oui. Les Québécois s'intéressent à leur vie politique nationale avec plus d'intérêt qu'ils ne s'intéressent à la vie à Ottawa. Donc, dès lors, la vie politique ne pouvait pas se réduire, malgré la tentative médiatique et politique dominante, ça ne pouvait pas se réduire à une forme de référendum anti-Trump pro-Fréchette.
C'est bon. Regardons, par exemple, les derniers chiffres. La dernière promesse en lice, celle de la réduction de la taille de l'État. Le PQ, quand même, 4,7 milliards sur 4 ans. On comprend qu'il y a un changement de paradigme pour le PQ, là. Il y a moins de proximité envers les syndicats. Magali Picard n'est pas venue sauver les fesses de PSPP. Il semble y avoir un nouveau réalisme au sein du PQ. Puis on va y aller de manière transparente. tu voterais PQ si tu étais ici, là? T'sais, donc, on n'a pas la prétention d'être objectif et l'objectivité n'est pas de ce monde.
Il faudrait beaucoup d'imagination pour me voir comme un libéral.
Oui, c'est ça, exact. Donc, mais d'entrée de jeu, puis je vais y aller avec les deux autres rapido, mais je vais t'entendre sur le PQ. Parti conservateur, on n'est pas surpris, 3,7 milliards sur 5 ans. On parle d'économies projetées pour la réduction de la taille de l'État. Et Fréchette, hier, toute timide, 507 millions sur 5 ans. Mais je veux revenir sur le PQ et le changement de discours et le changement de garde. Il y a eu quand même un certain virage du PQ quand même. Là.
Je te trouve modéré dans ta description parce que pour moi, c'est plus un changement d'époque qu'on voit. Okay. Moi, je pense que tout comme le modèle qu'on avait sur les années du Plessis était arrivé à ses limites quelque part à la fin des années 50, tout le monde constatait que ce modèle-là ne fonctionnait plus, mais personne ne savait comment s'en extraire. Et là, on a connu, puis le nationalisme québécois, à l'époque, par ailleurs, était très traditionnaliste. Il était méfiant envers l'État pour différentes raisons. Tout ça. Mais là, ce modèle est arrivé à terme, puis on a changé de paradigme comme société. Je pense que de la même manière, aujourd'hui, plus de 60 ans après la Révolution tranquille, on constate que le modèle québécois tel qu'on l'a connu, technocratique, hyper syndicalisé, avec des règlements, puis des normes, puis des taxes, puis des impôts qui s'accumulent tout le temps, ce modèle a fait faillite en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus. Il gère une croissance permanente de la bureaucratie qui est devenue autoréférentielle. Donc, tous les partis qui ne sont pas de gauche dite radicale constatent qu'on est en train de changer d'époque. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a différents changements. Le premier élément, c'est qu'on constate que le tout à l'État, le social-étatisme, la social-technocratie lourde ne fonctionne plus. Alors, tous les partis cherchent à envoyer le signal qu'ils l'ont compris. De la même manière, tous les partis cherchent à envoyer le signal qu'il faut libéraliser au moins minimalement l'économie pour être capable de répondre à la crise de l'époque qui est la nôtre. C'est une étape nécessaire. Donc, tous les partis cherchent à envoyer le signal qu'ils ont compris qu'on a changé d'époque.
Mais on s'est compris, mon cher Mathieu. Ont-ils compris? Parce que là, dans les officines à l'extérieur, il y a quand même les trois centrales syndicales qui sont là. Sont-ils de connivence? Bien souvent, c'est le Front commun. Le Front commun qui est en dormance, quand il n'est pas dans la rue, il est en dormance, il est là. L'ogre est là, en coulisses. L'ogre syndical n'a pas parlé encore, là. Nous autres, on analyse le discours comme si les politiciens avaient la pleine liberté d'action, mais il y a quand même des contraintes dans le modèle,
oui,
des conventions collectives, tu comprends? Il y a quand même une ceinture...
Bien sûr, mais ensuite oui. Quand on dit, par exemple, quand le PQ dit on va réduire les impôts sur les entreprises,
oui.
Quand le PQ dit on va débureaucratiser, quand le PQ dit on va faire sauter Santé Québec, le système de machin qu'on a créé il y a quelques années, oui. Il envoie un signal clair. Premièrement, je voudrais dire, au-delà même du fait que la question, c'est-à-dire on doit changer de modèle de société, il envoie aussi un signal politique. Nous ne sommes plus un féodé comme on l'a peut-être été au syndicat. On n'est plus dans le même modèle. On est en train de changer. Et c'est pour ça que moi, je vois là-dedans, oui. Sur le plan, je pense que pour PSPP, on commence à le connaître, le bonhomme, oui. Il a un discours très politique public. Je devine qu'il doit quand même faire quelques calculs électoraux aussi. Oui. Et l'électorat du Parti conservateur et l'aile plus à droite nationaliste de la CAQ peut se reconnaître dans un tel discours en disant « OK, le PQ... » Moi, j'ai souvent entendu ça parmi des gens dans l'environnement Québec. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « La souveraineté, je ne serais pas contre, mais le PQ est beaucoup trop à gauche. La souveraineté, oui. Je ne serais pas contre, mais le modèle québécois... » Mais si vous voulez à tout prix fondre la souveraineté dans le modèle québécois, ça finit par nous étouffer. Mais là, il y a une forme de signal qui est lancé, qui me semble assez intéressant, mm-hmm. Et qui est entendu, mais qui ne date pas d'hier. Je précise que le tournant du PQ en ces matières-là, il ne vient pas d'apparaître soudainement en campagne électorale. Alors qu'inversement, Mme Fréchette semble avoir sorti de son chapeau un discours de réforme de l'État, parce qu'elle constate que si ce terrain-là, elle se faisait doubler puis elle devenait un peu la défenseure du statu quo, du modèle québécois dans ce qui est plus lourd et plus paralysé.
Mais ce sont des menteurs, mon cher Mathieu. Souvenons-nous de Legault, les promesses de Legault de réduction de la bureaucratie. C'est celui qui a embauché le plus de fonctionnaires. Et je fais un message aux auditeurs. N'écrivez-moi pas... chers amis du modèle, ouais, mais il a engagé des infirmières puis des profs. C'est pas ça, là. Là, moi, j'enlève les profs et les infirmières. Donc, parlons uniquement des pousseux de crayons et des technocrates. La bureaucratie, pousseux de crayons, a explosé sous Legault. Ils ont zéro crédibilité, la CAQ.
Ben. Comme l'immigration, si je peux me permettre aussi, alors qu'ils prétendaient la réguler. Mais tu noteras, là, je vais me faire bon doigt. Partout partout dans le monde occidental depuis 40 ans, on a cherché à réduire la taille de l'État, puis on n'y parvient jamais. C'est comme s'il y avait une forme de blob bureaucratique qui s'étend sans arrêt sur lesquels on n'a pas d'emprise. Donc ça, je pense que partout, on constate que l'État s'étend quel que soit le gouvernement. Quand je dis qu'il y a un changement d'époque, c'est que peut-être que là, il y a la possibilité d'un tournant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est en train de tuer nos sociétés. L'État tue la société et l'individu quand il est trop lourd. Dans le cas de la CAQ, le problème avec eux, c'est que c'est un parti sans conviction, mis à part le fait qu'ils doivent être au pouvoir. Donc, la CAQ se cherche un discours et un programme en fonction de ce qu'ils croient être les préférences électorales d'un groupe de citoyens ciblés, globalement les plus de 55 ans, les ci, les ça. Donc, la CAQ se construit un programme à partir de sondages. On peut pas dire
C'est des bricoleurs.
Oui, mais un peu maladroit. Alors, on peut pas dire la même chose de QS. QS a son vrai programme. Oh oui. On peut pas dire la même chose du Parti conservateur, du Parti québécois non plus. Donc là, la CAQ là-dessus se distingue. En fait, c'est un parti qui se croit voué au pouvoir. Et donc, ensuite, on verra comment on gouverne, à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, c'est l'extart. Peu importe, on verra ce qu'on fera un jour, mais d'abord, on doit gouverner. Il y a quelque chose là-dedans qui explique aussi la lassitude de l'électorat par rapport à la CAQ, au-delà de Mme Fréchette en particulier.
Ce que je constate également, c'est un déconfinement de la parole aussi. On ose dire que l'immigration, c'est too much. On ose dire que ça crée des dommages. Et là, n'est pas le point de tenir un discours anti-immigrant. Comprenons-nous bien. Et les enfants seront éduqués et méritent tous de l'aide. Là, n'est pas le discours. Et ça n'était pas le discours, d'ailleurs, de PSPP. Mais l'un des faits saillants, à mon avis, de la campagne, c'est ce point de presse devant l'école Roger Comtois de PSPP avec les graphiques sur l'immigration, ce que ça cause dans le concret, les fameuses roulottes dans les cours. Donc, je vais te faire écouter un extrait. Hier, Radio-Canada, et ça nous permettra de parler de Radio-Canada, vous avez Christian Dufour qui dit « Hey, ça suffit les pleurnichards de QS, ça suffit Ruba Gazal qui se plaint et qui essaie de réinjecter ça dans le discours. Hein? Ce sont des racistes, l'intolérance, etc. » Je vais te faire entendre Christian Dufour et par la suite, on commente.
Même Paul Saint-Plapamondon n'est pas arrivé avec des solutions précises. Des États généraux pourraient se pencher sur le problème. Mais moi, ce que je retiens, là, c'est que Mme Ruba-Gazal devrait se calmer. Là. C'est pas épouvantable de parler d'immigration.
Okay. C'est une campagne électorale,
non, je sais. Non, c'est, mais moi, je donne mon opinion. Je trouve que l'immigration, il faut en parler. Puis c'est pas raciste d'en parler.
Est-ce que Ruba doit se calmer?
Non, je pense qu'il n'y a pas tout seul à devoir se calmer. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de manière avec un ton vaguement plus calme, mais qui lancent à demi-mot la même accusation. Donc, à un moment donné, parler d'immigration, c'est responsable. C'est un principe de base. On appelle ça parler de la réalité. Constater qu'on a une situation d'immigration massive, c'est-à-dire qu'on reçoit et on n'est plus capable d'intégrer. Donc, ça crée de l'absence d'intégration, ça crée des pressions sur les services sociaux, des pressions sur l'école, des pressions sociales en général. C'est un fait. Puis là, j'ai vu de la espèce de ruse que j'ai entendue ici et là dans les médias en disant « Oui, mais là, c'est seulement la première génération. Les enfants qui sont nés au Québec, c'est des Québécois comme tous les autres. » Oui, on comprend juridiquement, mais quand vous retrouvez dans une école où la grande majorité est de première, deuxième génération, que l'intégration culturelle n'a pas eu lieu, que les rares Québécois de souche, comme on doit les appeler, se font appeler les Kebs, hein, on se rappelle là-dessus, c'est quand même un sujet dont on parlait il y a quelques années, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Donc là, les ruses du système en ce moment, c'est de chercher à nous faire croire que PSPP exagère en parlant d'immigration. Non, ils constatent simplement, puis moi j'invite tout le monde à lire là-dessus les textes sur Facebook ou sur Twitter, les analyses de Frédéric Lacroix, qui est un type exceptionnel et qui décrit très finement le débordement migratoire.
Comment tu l'appelles, Mathieu? Je n'allais pas ce nom-là.
Il s'appelle Frédéric Lacroix.
OK. Est-il un démographe ou sociologue?
Alors, c'est parce qu'il y a une vie professionnelle un autre geste, mais il s'est investi depuis 20 ans, moi je le lis depuis plus de 20 ans, dans la démographie linguistique, dans la démographie. Donc c'est devenu une forme de chercheur indépendant en démographie. Il a publié des livres assez importants aussi sur la question du français au Québec, pourquoi la loi 101 a échoué. Il a écrit un livre sur le cégep français. Là, il publie beaucoup d'études, il donne toujours des chiffres pour montrer comment, par exemple, à Lévis, comment, par exemple, à Québec, comment, par exemple, à Montréal, le débordement dans les écoles est considérable, puis comment ça tue la possibilité de l'intégration. Donc là, à un moment donné, il faut aussi remettre en question ce que j'appelle la théorie magique du territoire. Il ne suffit pas de naître quelque part pour d'un coup adhérer à cette culture. Si vous naissez sur un bout de territoire au Québec, où la culture québécoise n'est plus la référence, où la langue française n'est plus la référence, où l'identité québécoise est vue comme quelque chose de négatif, eh bien, vous avez beau genre avoir juridiquement, puis c'est tout à fait vrai, des titres de Québécois, sur le plan de l'intégration culturelle, ça fonctionne pas. Nos écoles n'intègrent plus. Donc, faut juste le comprendre, ça. Et Frédéric Lacroix, que j'invite à lire, je pense vraiment, il amène la réflexion plus loin. Oui. Il corrige le discours médiatique ambiant qui cherche à nous faire croire que circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça, je pense que PSPP, avec ce point de presse, a marqué l'esprit de la campagne. Oui. Et j'espère, on verra bien ce qu'il fait parce qu'il y a d'autres sujets, mais j'espère qu'il ne reculera pas sur ça parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un discours de réalisme migratoire au Québec.
Qu'en est-il du travail maintenant des médias dont certains sont de connivence avec la CAQ? Qui semble avoir une escouade de fouilles poubelles pour essayer de vérifier. Ah oui, mais en 2014, il a dit pipi. En 2013, il a dit caca. Qu'est-ce que tu penses de ça, ces espèces de procès-là de coin de table, de bienséance? Il n'a pas été fin, il n'a pas été gentil.
Parce qu'on s'est toujours pas adapté, je crois. On sait que les réseaux sociaux font en sorte que les conversations de taverne sont devenues ont de l'écho dans la vie publique. Donc, c'est comme ça maintenant. Donc là, tout le monde s'exprime là-dessus. Ça s'engage dans la vie politique. Tout le monde n'a pas le bon sens d'effacer l'ensemble de ces réseaux sociaux en silençant. Bon. Parce que ça fait en sorte. Puis moi, ça m'énerve un peu parce que c'est une forme de distraction électorale. Parce qu'en politique, à un moment donné, il faudrait analyser, je crois, puis c'est assez important comme élection. Analyser les programmes, analyser les discours, analyser la vision d'ensemble des différents partis, où en est le Québec aujourd'hui. Et là, on laisse ça de côté, et puis on s'intéresse, on commence à gratter sur des déclarations des uns et des autres. Mais quand on tombe sur des déclarations importantes, par exemple, Mme Peterson, qui tient un discours qui est complètement contraire à celui du parti qu'elle a rejoint, ça, on n'en parle pas. Donc, puis de l'autre côté, on fait une chasse à l'homme contre Garrieppi. Donc moi, ça m'énerve un peu. J'aimerais juste que cette élection porte minimalement sur le Québec, pas sur les cancans des uns et des autres sur les réseaux sociaux, puis pas non plus sur Trump, le grand méchant. Est-ce que le Québec pourrait s'intéresser au Québec juste pendant quelques jours? Ça va arrêter au 5 octobre, on pourra recommencer à cancaner après. Mais moi, ça me fascine, cette espèce de distraction qui se substitue à l'élection.
De quoi on ne parle pas assez?
Non, c'est pas bon. Si c'est de moi, je dirais franchement, c'est le cas de le rapport du Québec au Canada. Quoi qu'on en dise, on multiplie les débats à partir d'une boîte à outils réduite qui est celle du Québec province. Puis on réfléchit jamais à comment. On dit oui, comment Trump nous empêche de faire des choses, mais on veut pas voir comment Ottawa, avec son régime, sa centralisation, son allocation des ressources, limite sa capacité d'autonomie du Québec.
Mais le fait, Mathieu, le fait, par exemple, que PSPP dise je mets ça dans le frigo et on s'en reparle. Est-ce que ça vient pas un peu le menotter ou menotter la stratégie dans la mesure où il s'est engagé à dire « OK, parfait, je vais vous vendre le bon gouvernement. » C'est toujours la dichotomie péquiste. Ouais. Dans la mesure où il a dit ça, n'est-il pas en position de faiblesse par rapport à ça?
Je dirais pas ça parce que moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que fondamentalement, l'administration américaine actuelle serait plus propice que bien d'autres auparavant à reconnaître un éventuel référendum sur l'indépendance du Québec. Il y a une donnée qu'il faut tenir compte, donc je suis le premier à me désoler, c'est que les Québécois sont tellement sidérés par Trump. Il suffit de dire le mot Trump pour que d'un coup, ils prennent leurs armes à leur cou et se réfugient alors sous la jupe de la protection de la grand-mère fédérale. Les Québécois sont pas capables d'entendre le discours là-dessus en ce moment. Je m'en désole. Je trouve que c'est un effet de sidération. Donc, je pense que c'est pas, parce que j'ai entendu le discours de quelques-uns qui disent, ah oui, tant que Trump est là, le Canada nous protège. Non, c'est juste que tant que Trump est là, les électeurs sont complètement, on constate, n'écoutent pas du tout le débat national. Voilà. Bon, ben, très bien. À un moment donné, on en tient compte. On appelle ça un détour stratégique. Je m'en désole. Non pas de la décision de PSPP. De ce point de vue, je pense que c'est une forme de réalisme. Mais je me désole du fait que les Québécois, en France, sont tellement fixés sur Trump que même la question de leur avenir national, ils pensent encore au bon protecteur de Ottawa, le bon maître anglais qui va nous protéger. Quelle blague.
Quelle blague. Puis c'est pour ça qu'il a amené, ça c'est avant-hier, il a fait une sortie PSPP en disant « L'espoir plutôt que la peur et l'anxiété. Les Québécois sont complètement tétanisés.
Ouais. »
Et c'est le cœur et la tête. Tu sais, bon, PSPP, puis Duhaime arrive avec des concepts économiques, oui, oui. Des idées, etc. Mais ça connecte pas ou peu ou pas assez avec les Québécois qui sont au niveau des émotions et de l'anxiété et la peur.
Mais moi, j'ai entendu PSPP dire espoir. Moi, j'aurais utilisé un autre terme que celui-là. Pas juste avoir espoir, c'est toujours bien, mais ça fait ce côté Obama, mais je dirais surtout le courage. À un moment donné, je pense que le Québec, aujourd'hui, on a besoin de courage. Ça, c'est le concept, on ne veut pas le mettre de l'avant parce que ça donne aux gens l'impression qu'il y a des efforts à faire, ça va être difficile, ça va être compliqué.
Mais ça, c'est Lucien, que... c'est très Lucien, Mathieu.
Ça,
j'aime ce côté-là de Lucien, que n'a peut-être pas PSPP. À tort ou à raison, ça n'en fait pas lui un moindre individu, c'est pas ça que je dis, mais dans la nature de la bête politique, ils sont foncièrement différents à ce niveau-là.
Oui, mais PSPP nous a quand même pas mal surpris ces dernières années. Je veux dire, à un moment donné, personne ne... Il n'y a pas de politiquement correct. Oui, oui. Donc, certainement qu'on peut se dire. Donc, si la prochaine étape consiste à dire, Québécois, relevons-nous les manches, on a besoin de il faut du courage. Il faut du courage pour être capable de parler franchement de l'immigration. Il faut du courage pour réformer l'État. Il faut du courage pour regarder le Canada en face. Je pense que ça, ça serait entendu. Ensuite, il mène bien sa campagne comme il veut. Mais moi, c'est à part manquante dans ce discours-là. Cela dit, il faut sortir d'espèce de peur. Parizeau a cette formule « n'ayez pas peur » qu'il avait empruntée à sa manière au pape. N'ayez pas peur et puis délivrez-vous de ce qui vous paralyse mentalement, cette peur chronique. Ça, c'est notre vieux faux colonisé qui remonte à surface. Je veux croire qu'on est capable de s'en délivrer.
La parité, le soleil est arrivé avec cette histoire-là. Évidemment, ça, c'est la gauche qui adore parler de ça. La parité parlementaire, est-ce que ça prend une loi pour stopper le glissement? Un glissement. Y a-t-il glissement concernant la parité? Tandis quoi?
Premièrement, moi, je ne sais plus qui est un homme et qui est une femme aujourd'hui. Il faudrait nous le dire. Hein? Ça fait 10 ans qu'on nous explique qu'on sait plus ce que c'est. Donc, on verra comment chacun s'autodéclare dans quelques
semaines. C'est juste dans le ressenti, paraît-il. Hein?
Ben, ça peut changer. On va peut-être avoir 125 femmes un jour, 125 femmes hommes le lendemain. On ne sait pas. Premier élément. Deuxième élément, qu'on nous fiche la paix. Moi, j'ai toujours dit, la première personne pour qui j'ai voté dans ma vie, c'est Céline Signori pour le Parti québécois en 1998. C'était pas parce que c'était une femme, c'est parce que c'était une péquiste, une indépendantiste. Puis ensuite, j'ai voté pour des hommes, j'ai voté pour des femmes. À un moment donné, je vote pour des idées, un programme. Je ne vote pas pour un quota, quel qu'il soit, d'hommes, de femmes, de mauves, de jaunes, de verts. Je vote pour l'individu, je vote pour le parti. Je pense qu'à peu près tout le monde pense comme ça, sauf une forme de néo-féminisme technocratique qui décide de transformer les gens en chair à quota.
Puis je veux profiter de la dernière question de ta présence à Paris. Je m'en vais complètement ailleurs. Mais je veux connaître de quoi on parle, qu'est-ce qu'on ressent à Paris ou en Europe en général. Les tensions, entre autres, avec la Russie. Là, on voit que l'Allemagne, la Russie,
bon, il y a des tensions.
Oui, mais je veux t'entendre là-dessus.
Ben alors, nous vivons dans ce sentiment qu'on est dans une époque où on est à un drone mal lancé de la possibilité d'une forme d'explosion. Je pense que la plus grande responsabilité politique des gens en ce moment, puis on le voit dans le discours public, c'est d'éviter de se laisser entraîner par une spirale qui, d'une réaction à l'autre, pourrait nous conduire à l'extrême. Je pense qu'une leçon qu'on doit retenir des dernières décennies, c'est que quelquefois, la responsabilité des hommes politiques, c'est de contenir les passions et de ne pas courir à la guerre, surtout si elle peut se globaliser. Moi, je redoute une forme de course aux extrêmes, de montée aux extrêmes. Donc, tout le monde est solidaire des Ukrainiens, ça va de soi. Tout le monde trouve que les Russes sont dans une logique impérialiste. C'est atroce. Ensuite, évitons de par exigence morale, de dire on doit, parce que je le lis ça en Europe quelquefois, il faut un affrontement net et viril pour être capable d'en finir avec cette menace qui pèse sur nous. Quelquefois, le moindre mal est mieux que le bien idéal.
Merci beaucoup de ta contribution, Mathieu. On t'écoute, on te regarde. Bye.
À très bientôt, merci.
Salut, bye. CNews, c'est là que je l'aime le plus. L'actualité française, analysée. Quand il s'accroche.
Oui.
Ici, on a mal. Tu sais, la joute, bon, on le regarde.
C'est plate.
La joute. Mais tu sais, la joute, il est retenu. C'est un cheval sauvage. Il est retenu. Parle pas Larocque, mais c'est le Québec. Oui, Abdel Fadel, là, qui est contre lui bien souvent. Oui, Mathieu, là, tu trouves pas que tu vas trop loin? En France, il est déconfiné. France, c'est le vrai Mathieu, déconfiné. Puis il peut se faire ramasser, il ramasse, let's go. Tu connais la différence, de toute façon, on en consomme des médias français. Là.
Je trouve ça plate qu'on soit pas capable de s'assiner le même, puis après ça, passer à autre chose.
C'est la vraie nature de Mathieu. C'est là qu'il explose.
Ça fait tellement des...
Un char de course en termes...
Moi, j'aime ça, là.
Il est au gaz d'avion, hein, Mathieu.
C'est pas plate, c'est vivant, c'est drôle, ça fait réfléchir.
Oui, c'est drôle. Tout est là. Oui, ça fait réfléchir. On n'est pas capable.
C'est un côté avec lequel on est vraiment... Mais les gens, tu sais, les gens deviennent mal à l'aise.
Oui, il est mordu, il a dit ça. À la joute, il a dit que...
C'est ça.
Non, le digo.
Les gens ici regardent ça pareil comme si on regardait quelqu'un qui sort de la salle de bain avec un morceau de papier de toilette qui dépasse de ses jeans. Hein. Tu sais, ils sont mal à l'aise, ils viennent comme, ils savent pas quoi faire.
Les débats à la joute, c'est comme un verre de vin rouge avec beaucoup d'eau dedans.
Oui, de la glace.
Oui.
Ils mettent de la glace dans le vin rouge.
Oui. Oui.
Et puis, en plus, il y a des bons débatteurs qui seraient capables de s'ostiner et de se pincer solide. Là.
Comme Rodolphe, qui va être ici. D'ailleurs, je vais être avec lui.
Mais vous autres, vous ne vous pincerez pas. Vous êtes,
d'accord. C'est un conservateur. Tu sais, il y a des affaires. Mais. T'sais, Rodolphe, par exemple, peut se pincer avec un tel ou un tel. T'sais, Amir Kadir, par exemple, qui est là. Amir, des fois, il en lâche une coupe de bande. Laisse-le aller.
Tu sais, le temps d'un débat, de dire à quelqu'un que tu respectes, t'es complètement malade.
T'es fou! Quand tu penses à ça, t'es un débile! Tu me fais suer! C'est lunaire!
Comme en France.
C'est ça. Puis après ça,
en France, il y en a qui quittent le plateau puis qui reviennent dans la même émission.
C'est ça. Ils partent en pause, oui. Ils tapent dans la main. Ils font, hey, ça a été le fun. Ça a été une belle joute.
Ils vont finir ça au bistrot.
Pareil comme une game de badminton avec un de tes chums serrés.
Puis tout est oublié. Hey, j'en écoute. T'en écoutes aussi beaucoup de télé française. Ouais. On a appris vraiment à consommer ce produit-là qui est de l'entertainment, là. Durant la pandémie, on a invité beaucoup de Français ici.
Puis tu sais quoi?
Puis le lendemain, ils reviennent, puis ils partent à rire. Mais ici, on le prend personnel, on prend tout personnel.
Ah, puis même, garde.
J'y parle plus, puis je le cancelle.
Ils font ça, mettons, à TV, puis ils se pognent, puis ouais. Une heure après, ils sont dans le même show de radio, puis ils sont sur un autre sujet, ils sont d'accord, puis
oui.
Ils sont brotus.
Ils parlent souvent de sport même aussi.
C'est...
On s'en allait ailleurs, dans une autre zone.
Et cette façon de faire-là, les Italiens sont comme ça aussi, les Espagnols sont comme ça aussi, les Anglais, niet.
Les Latins. Non, les Anglais sont...
Donc ça, c'est une autre preuve que même si on est francophone, même si on est latin...
On n'est pas français.
On n'est pas français. On est quand même plus influencé par l'Angleterre que par la France.
Je joue deux, trois extraits avant d'aller à la pause puis d'aller dans le One-Two Punch avec Jean-Claude.
Il est là, il est branché.
Il est branché. Même... Tout est réglo.
Oui, oui.
On va aller à la pause avant, par contre.
Oui, oui, c'est sûr qu'on va aller à la pause avant.
Ouais, j'ai deux, trois extraits qui...
Je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup le temps.
Non?
Non.
Là, c'est Dan Levrec qui parle.
Oui, là, c'est Dan Levrec.
Dan Leplate.
T'es rentré ici, la première chose que Dan tu me dis, c'est Levrec. Que j'ai besoin d'une police au gros bras pour me faire respecter le temps.
Ben, le gros bras n'a pas été prononcé. Mais je te donne raison
tu
pour
le reste.
Tu me dis
d'une bonne police.
Correct, d'abord. Je me la ferme. On revient.
Morée.
Le sentez-vous?
Live.
On revient dans pas long.
Radio X.